Calade 100.9.
Parlons équilibre. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons Équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et moi, une association qui accompagne les personnes obèses ou en surpoids dans le Beaujolais. Vous arrive-t-il d'être en introspection? Ce temps où on se rend compte qu'au quotidien, on fait de nombreuses choses qui ne nous intéressent pas vraiment, par obligation, et parfois, on peut sentir qu'on n'est pas vraiment soi, ou bien que l'on trahit ses idéaux, nos rêves également. Il est souvent dit que l'harmonie commence à l'intérieur. Alors comment nous recentrer et nous reconnecter à nous-mêmes? Et pour parler de tout ça, nous recevons ce soir Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Najet.
Et avant de nous expliquer pourquoi il faut savoir se recentrer, parlez-nous un peu de vous.
Bonsoir à tous. Je suis Juliette Leclerc, je suis coach et thérapeute. J'accompagne les personnes à se reconnecter à soi. C'est justement un grand sujet, je trouve, de redonner du sens à nos vies face à une société qui est en plein mouvement et tumulte, de revenir à ce qui est bon pour soi et de se redonner du sens dans nos vies.
Bien, Juliette, dites-nous, se reconnecter à soi, c'est un besoin vital ?
Ça me semble effectivement un besoin vital, voire même essentiel. Notre énergie vient de cette reconnexion à soi qu'on peut nommer aussi la respiration. Sans respirer, comment on peut permettre au cœur de battre? Comme sans respirer, comment on peut se permettre d'être en vie au final? Et cette reconnexion à soi, elle a vraiment objet de se dire au final, est-ce que c'est l'autre et le regard de l'autre qui m'interpelle, ou est-ce que dans le regard de l'autre, il n'y a pas un effet intérieur qui a besoin d'être éveillé pour être pleinement et entièrement connecté à soi. Je dirais ça comme ça.
Bien. Vous voyez que là, on est au printemps et on revit quelque part, on respire mieux, on cherche la lumière et le soleil, la chaleur également. Doit-on s'aligner sur la saisonnalité pour se reconnecter à soi ?
La saisonnalité peut être tout à fait un moyen d'aide. C'est vrai que pour certaines personnes, par exemple, l'hiver est une période assez sombre, assez difficile, dans le sens où il fait froid, où nous avons du mal nous sommes fatigués, nous avons du mal à nous reconnecter à ce qui est chaleureux chez nous. Et c'est peut-être un moyen aussi de se dire, et si j'hibernais un peu comme les marmottes au final? En fait, ce qui me vient là pour la notion des saisons, de la saisonnalité, c'est aussi être en écoute du cycle, de son cycle. Alors aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la notion de cycle, elle est dans sa menstrualité, mais elle est aussi, pour les femmes bien sûr, mais elle est aussi dans la notion du cycle des lunes. Et le cycle des lunes nous montre aussi comment au final on est, c'est comme une fleur au final qui a besoin de germer avec sa graine d'abord qui germe, puis qui devient fleur, puis au final qui se meurt, et qui après, qui en tombant dans la terre, recrée une graine elle-même qui regerme et repart. Et en fait, dans sa notion de saisonnalité, ce qui est là, c'est qu'effectivement, c'est accueillir notre propre saisonnalité intérieure. Parce qu'au final, même si les saisons sont les quatre saisons que l'on connaît bien...
Nous avons nos propres saisonnalités.
Nous avons notre propre saisonnalité potentiellement, ou bien nous avons notre propre manière de ressentir la saisonnalité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, l'hiver peut être un effet énergique parce que le froid est vraiment quelque chose qui appelle, que l'été pour d'autres peut être à l'inverse énergique aussi. En fait, nous sommes aussi souvent dans d'autres domaines qu'on peut appeler la pratique chamanique, par exemple. Oui. C'est un domaine qui est plus ancestral. Et on parle de la roue de la médecine. Et dans cette notion-là, les quatre directions sont, eux, rattachées aussi à la terre, le feu, l'air et l'eau. Et en fait, on se rend compte que nous-mêmes, on appartient à ça. On a du feu à l'intérieur de nous, c'est le feu de l'énergie. On a de l'eau, puisqu'on est fait de plus de 70% d'eau. L'air, c'est l'air que nous respirons. Et la terre, c'est de nous, là où nous venons. Nous sommes poussière, au final, si on voit cet aspect-là. Donc, pour répondre à cette saisonnalité, il me semble que ce qui est un peu temps de retenir, c'est comment je suis là, dans cette saison, comment je me sens là. Peut-être on parle du printemps. Oui. Pour certaines personnes, c'est un moyen de se transformer, de faire des changements, de se renouveler. Et pour d'autres, ça va peut-être être un moment d'introspection plus important, d'accepter et d'accueillir ces blessures.
D'accord, bien. Et puis, alors, parlons d'alimentation, par exemple. Est-ce qu'on peut se reconnecter grâce à l'alimentation ?
Totalement. Si nous parlons d'alimentation dans cette reconnexion, c'est de reprendre goût à ce que j'ai dans ma bouche, reprendre les saveurs. C'est-à-dire que la reconnexion, elle peut se faire par rapport au choix du plat. C'est comment j'ai du plaisir à manger, comment je retrouve plaisir à manger, comment je redécouvre un aliment tout à fait simple et basique, comme par exemple la carotte. Si je la fais en cru et que je la goûte, elle va être différente que si je la fais cuite. Et si je choisis de mettre du beurre ou de l'huile ou autre chose, elle va avoir tout à fait une nuance différente. Et après, ce qui est intéressant dans cette reconnexion à l'alimentation, c'est d'intégrer, par exemple, de mettre dans la bouche la carotte cuite, ou cru, qu'importe, à tester, expérimentons, et d'en découvrir ses formes avant de la mâcher, d'en identifier peut-être sa saveur avant de la mâcher, de voir toute sa rondeur, et puis de faire un croc, et de sentir, de voir ce qui se passe, et puis de poursuivre un peu la mastication, tous ces aspects-là, pour permettre d'être de nouveau à la pleine conscience de ce que je mets dans ma bouche.
C'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience.
Tout à fait.
Est-ce qu'on le fait vraiment ? Non, je ne suis pas sûre.
Ça nécessite vraiment de l'attention.
Du temps
et de l'attention. Et c'est marrant, dans attention, je fais attention. Comme s'il y a une part de vigilance en soi qui disait prenons notre assiette et regardons ce que nous avons à manger. Oui. Et apprécions d'abord de prendre une par une chaque bouchée. On dit qu'il faudrait mastiquer au minimum 15 fois chaque bouchée.
Ah, d'accord. Bah écoutez, on en apprend des choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que si nous avons, par exemple, un comportement alimentaire irrespectueux, ça on mange mal ? Est-ce que ça traduit quelque chose ? Un manque, je ne sais pas, d'amour en soi, de respect de soi ?
Ça pourrait traduire vraiment, effectivement, d'un mal-être. D'un mal-être qui s'exprime par le fait de trop manger ou pas assez manger, de calculer, de vouloir contrôler ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et l'alimentation est un moyen. Je sais pour ma part que quand je suis dans une phase un petit peu plus en difficulté, je ne vais pas être à l'écoute, je vais être moins à l'écoute, on va dire, de ce que je mange, que quand je suis en paix avec moi-même et que je veux me donner de l'amour au final et je me reconnecte, je choisis mon alimentation et je choisis même mes légumes et je choisis jusqu'à les avoir dans mon potager.
D'accord. Oui, d'où l'importance, de se connaître, et de prendre soin de soi, de manger en pleine conscience, de faire attention à soi.
Après, comme vous l'avez très bien dit, la pleine conscience, manger en pleine conscience, ça nécessite du temps. Le premier pas vers soi, c'est déjà d'observer, de regarder comment je mange, en fait, moi. Comment je m'autorise de manger et comment je me force à manger. Si je mange 4 bouchées en 5 minutes, j'ai terminé. C'est qu'est-ce qui se passe pour moi ? Comment je me donne de l'amour, au final ? C'est vite fait, bien fait.
Merci. Juliette.
Avec plaisir.
Est-ce que l'on peut se connecter en utilisant son intuition ? Là, on va plus loin. Là, c'est plus profond dans notre corps, là.
Alors, pour certains, l'intuition, ça va être... on va parler d'âme, on va parler de cette petite voix qui nous dit des choses. J'ai envie de dire, on peut se connecter par son intuition pour se reconnecter à soi. C'est un peu cette petite voix bienveillante, parce que c'est pas celle qui dit « t'as pas fait ça comme ça, il faut que tu fasses comme ça et comme ça et comme ça, parce que c'est pas bien ». Non, ça c'est une autre voix. On peut en avoir plusieurs. Mais cette notion d'intuition, c'est celle qui dit « mais c'est sûr, c'était ça ». Et puis après coup, on se rend compte que on l'a pas écouté.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que notre corps est intimement lié à l'intuition ?
Le corps peut être intimement lié à l'intuition. Je pars du principe, c'est même plus grand que ça. C'est comme s'il y avait de l'ordre de ce quelque chose de plus grand. Il y en a qui peuvent l'entendre de différentes manières. Ce qui nous appelle à observer autrement ce qui se passe dans notre vie. Et cette intuition, c'est quelque chose qui n'est pas dans le savoir, qui est moins dans le mental, du coup, oui. qui c'est le mental, il veut savoir, il veut connaître, il veut apprendre à connaître, et puis encore plus connaître, et puis connaître mieux que l'autre, parce que l'autre, mm-hmm. il sait, mais moi, je veux mieux savoir. L'intuition, elle cherche même pas ça. Elle sait sans savoir. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle arrive comme ça, spontanément. Elle vient sans rien attendre, au final.
D'accord. Et est-ce que l'intuition est liée à nos émotions ou pas? Quand on est très en colère, par exemple, a-t-on une intuition ou pas?
C'est intéressant parce que c'est une bonne question à se poser. Au final, c'est comment je suis en observation de ce qui se joue chez moi dans mon corps. Oui. Au final, l'émotion est un moyen... que nous mettons de plus en plus à l'écoute aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on est dans une époque d'écoute des émotions et qui, c'est un moyen d'exprimer quelque chose qui n'est pas entendu.
Oui.
Donc, il y a l'émotion. Et puis, physiquement aussi, quand on a des maladies ou quand on a on tombe, on se fait mal ou des choses comme ça. Oui. L'intuition, est-ce que vous pouvez reposer votre question pour bien y répondre?
Est-ce que les émotions sont liées à l'intuition?
Je ne sais pas si elles vont être liées. Disons que l'intuition, si on pense d'âme ou de choses comme ça, c'est une alerte peut-être comme le corps. Ça pourrait être un moyen en fait à l'intuition de dire au corps ou à la personne « Eh oh, j'existe, écoute-moi ». Et je ne sais pas si c'est lié. En tout cas, c'est un moyen pour le corps et puis pour l'être d'exprimer quelque chose qui n'est pas écouté, un blocage pour moi. Et l'intuition, elle vient à côté. C'est si je suis en observation de ce qui se passe dans mes émotions et dans mon corps physique, je peux me permettre de commencer à entendre peut-être la petite voix qui me chuchote, peut-être d'aller dans le flot sans rien attendre.
Bien. Eh bien, allez, petite pause musicale avec Bourvil, La tendresse.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs. des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Nous venons d'écouter La tendresse de Bourvil sur Radio Calade. Revenons à notre introspection avec Juliette Leclerc, coach thérapeute. Juliette, dites-moi, qu'est-ce que la roue des émotions ?
C'est une très bonne question. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps sur un échange entre parents dans un groupe de parole. En fait, dans l'idée de se dire, au final, quand j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple de répondre à qu'est-ce que j'ai comme émotion là qui arrive pour moi, même en tant qu'adulte. Et du coup, j'ai trouvé, donc c'est la structure, ça s'appelle Autrement dit, et qui propose justement une roue des émotions qui va de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'arrive ? Là, je suis tendue, par exemple, qu'est-ce que j'ai ? Là, je suis en tension ou je suis stressée, voilà ce qui se passe pour moi. Ensuite, c'est au final de quoi, comment je le nomme ? C'est de la peur ? Est-ce que c'est de la honte ? Est-ce que c'est nerveux ? Comment je la nomme au final, cette émotion ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est quelque chose ? Et derrière, au final, de quoi j'ai besoin ? Et dans cette notion de roue des émotions, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette roue-là, c'est jusqu'où je vais. En fait, j'ai mon émotion, ok, très bien, c'est intéressant de l'identifier, mais derrière, de quel besoin il s'agit ? Et comment je le nourris, mon besoin, au final ? Comment je vais aller chercher ?
On va faire un petit exemple.
Mais bien sûr, très bien.
Alors, je suis stressée.
Alors, dans « je suis stressée », après, derrière, je vous invite à regarder. Ça veut dire quoi, derrière le stress ? Donc, je suis tendue, on va dire. Et puis, derrière, il peut y avoir quoi, derrière, sur cette partie-là ? Je me sens... Donc là, il y a plusieurs... Alors, le stress, il doit être... Il doit être, peut-être dans est-ce que c'est stressé, nerveuse, On est plutôt dans la colère, par exemple. Donc, on identifie que c'est plutôt de la colère, peut-être, qui est présente. Et de quel besoin, quel besoin s'y associe ? Là, vous pouvez regarder sur les couleurs associées en se disant, tiens, c'est intéressant.
Donc, si je me mets là, effectivement.
De regarder ce qui parle.
Donc, je suis...
Et faire bouger en disant...
Je suis frustrée, d'accord.
Voilà, par exemple. Et puis là, d'aller regarder de l'autre côté, de quel besoin j'ai ? Je suis frustrée et j'ai quel besoin, au final ?
D'accord. De me déstresser avec...
De respirer, de ralentir, peut-être.
Voilà, exactement.
De réécouter la tendresse.
Oui. Tout à fait. Non, c'est très, très bien. Vous voyez, en ce moment, on parle beaucoup de la slow life.
Oui.
Savez-vous ce que c'est, Juliette ?
Alors, je n'ai pas la définition en tant que telle propre, comme peut-être vous l'avez. Moi, ce qui est clair pour la slow life, c'est en fait cette notion justement de ralentir. D'accord. C'est comment je suis plus à l'écoute de moi. Comme je disais en préambule dans ma présentation, je disais qu'au final, la société nous amène à toujours accélérer, toujours plus vite. Toujours plus de mails, toujours plus d'activités, toujours plus.
On nous en demande beaucoup.
On nous en demande beaucoup.
Dans notre vie.
Voilà. Et qu'au final, en fait, est-ce ça la vie ? Et donc, dans cette notion de slow life, c'est de revenir à l'inverse. C'est comment je ralentis, j'en mets moins, j'en pose moins, encore moins, encore moins.
Mais pour cela, il faut savoir lâcher prise. Et alors, comment lâcher prise ? Et être plutôt que faire ?
Oui, tout à fait. Comment lâcher prise ? Alors moi, j'aime beaucoup dire, plutôt que lâcher prise, laisser être. Se laisser être, ça veut dire quoi ? De plus dépendre du regard des autres, de plus dépendre d'une horloge qui passe son temps à tourner, et de faire des choix pour revenir à soi. Et c'est difficile au sein de cette société, puisqu'on est... quand on travaille en tant que salarié, c'est 9h-18h, et puis une pause potentiellement, mais bon, une pause, on n'en prend pas vraiment. Voilà. Et en même temps, il y a d'autres sociétés qui sont en train d'émerger, justement, en disant, mais suivez votre rythme. C'est quoi mon rythme ? On revenait sur le cycle tout à l'heure. Au final, je suis dans quel rythme, moi ? Moi, je suis plus du matin, plus du soir, plus de l'après-midi. À quel moment je perds mon énergie ? À quel moment je retrouve mon énergie ? Et pour cela, il y a une technique, effectivement, que je propose pas mal dans mes coachings, c'est de revenir sur ses valeurs. Ses valeurs, c'est ce qui nous porte au-delà de ça, en partie, en tout cas, de ce que je propose. Mais c'est de revenir sur qu'est-ce qui me porte, qui me met en énergie. Quand je suis fatiguée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri qui a besoin d'être nourri autrement. Et comment je reconnecte à ça et comment je recrée de la connexion entre les deux.
D'accord. Et quels outils alors pour se reconnecter à soi?
Oui, quels outils arrive, hein. Alors, il y a des outils qui sont particulièrement simples. C'est se dire, allez, je pars dans la nature. Il y a des outils qui peuvent se faire au travail. J'ai déjà entendu et j'ai déjà recommandé de faire ce genre d'action, c'est d'aller aux toilettes. Pas pour aller aux toilettes juste pour son besoin vital, mais pour aller sur un autre besoin vital qui est de respirer, de faire des trois grandes respirations, de revenir à l'intérieur de soi, de fermer les yeux, de se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur et de peut-être vivre son émotion si besoin dans un endroit qui nous est sécure. Et ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Et une autre qui est aussi assez intuitive pour justement pour ceux qui ont envie d'expérimenter, c'est de jouer sur de prendre une page, une feuille blanche et un crayon, et de respirer. Commencer par vraiment faire le vide à l'intérieur de toi, soi et le silence. Et puis de prendre le crayon et puis de fermer les yeux et de se laisser spontanément dessiner comme si on barbouillait quelque chose comme un enfant et se laisser vraiment indiquer par ce crayon qui est posé sur la feuille et qui dessine quelque chose, on ne sait pas quoi. Et puis de relever après le crayon et de regarder ce qui est spontanément... ce qui se voit, ce que vous voyez de ce qui émane. Alors, il m'est arrivé de voir des dessins où j'étais très surprise de voir une girafe ou de voir... Voilà, et qu'est-ce que ça m'inspire au final? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et en amont, ce que j'ai omis de dire, c'est peut-être de donner une intention à ce dessin. Bah, merci de m'aider à me reconnecter à moi. Comment je peux me reconnecter à moi? Et puis de laisser le dessin se faire.
D'accord.
S'écrire. D'accord. Se dessiner, plutôt.
Est-ce qu'on peut se reconnecter physiquement, je sais pas, je pense à faire en faisant du sport par exemple, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, mais parce que là on est quand même, on se recentre hein, sur soi-même, on essaie de chercher loin en nous.
Oui.
Est-ce que le physique peut entrer en jeu ou pas ?
Bien sûr. Alors il y a une chose qui je trouve est ce qui est aidant pour le tout, c'est d'être connecté tête cœur corps, comme nous disons, un alignement complet.
Tête cœur corps.
Et donc c'est vrai que souvent la tête, quand nous sommes beaucoup dans le mental, beaucoup de choses se racontent dans la tête. Le cœur du coup est parfois rempli, parfois vide, et le corps, il a besoin aussi d'exister et de s'incarner. Et pour cela, et bien effectivement, je pense que physiquement c'est important d'être à l'écoute de ce corps qui a mal. Si on a des maux de dos par exemple, si on a mal à la tête par exemple, c'est d'accueillir qu'est-ce que ça raconte de ce que je vis en ce moment et comment je prends soin de ça par exemple. C'est vrai que pour ma part, j'utilise le yoga aujourd'hui, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. J'étais beaucoup dans la fuite du corps, en courant beaucoup, 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 sans écouter mon corps. Aujourd'hui, je recours en écoutant mon corps, ce qui est totalement différent. Et le yoga
donc,
est
vous arrivez, en pratiquant du yoga, à vous connecter avec vous-même, c'est
oui,
ça ?
Oui, complètement. Il y a différents types de yoga. Alors, je ne suis pas une experte, puisque je suis plutôt praticienne que... Je pratique plus que je ne propose la formation, enfin... à exercer, mais il est clair que le fait de se connecter à soi et de ressentir son corps, de ressentir sa douleur ou pas, permet clairement de physiquement une belle connexion d'ancrage au quotidien. La marche aussi aide beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette expression de dire je marche comme si j'embrassais la terre. Et donc, ça propose au corps, du coup, de se connecter à la terre en même temps qu'il marche. Et donc, j'amène là un peu d'intuition, le côté un peu de se laisser aller à penser comme ça. Et en même temps, de permettre au corps aussi d'accueillir le pas et de ralentir le pas. Et physiquement, c'est un peu la même chose que pour manger. C'est revenir sur comment je me connecte physiquement à la pleine conscience de mon corps. Je marche au ralenti, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur. Et toujours être ouvert à l'extérieur, mais revenir à l'intérieur.
Bien sûr. Et être connecté à la nature.
Ah, oui, bien sûr.
Du coup.
Hyper important, tout à fait. En tout cas, pour certains, ça connecte plus que d'autres.
Et justement, est-ce qu'il faut être sensible à tout ça, à son environnement, à son intuition pour se reconnecter.
Disons que
est-ce qu'il faut apprendre? Est-ce que ce sont des choses qu'il faut apprendre?
Aujourd'hui, nous aimerions beaucoup, on est plusieurs praticiens et thérapeutes, oui, à dire, oui, qu'on aimerait beaucoup que l'éducation prenne en compte cette partie-là. Oui. Au Canada, en tout cas, c'est de plus en plus pris en compte, oui, de se reconnecter à soi d'abord. Mm. Parce que pour aller vers l'autre, rien qu'elle d'être d'abord connectée à soi pour pouvoir amener les autres à grandir.
Bien sûr.
Et alors, du coup, est-ce que ça s'apprend ? Ça s'apprend à désapprendre. Apprendre à désapprendre, c'est-à-dire de le tumulte de la vie, est-ce ça ? Mm-hmm. Et de revenir à quelle est l'essence même de pourquoi je suis là. Et souvent, ce qui vient à malheureusement, au final, à revenir à l'intuition, mm-hmm, c'est le mal-être. C'est le mal-être parce que je suis mal là où je suis, je me sens décalée, je me
sens... Parce que je ne m'écoute pas.
Parce que je ne m'écoute pas, ou simplement, oui, parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui parle de ça, il, oui, n'y a personne qui écoute ça et dit « il faut travailler, dépêche-toi, tu vas toujours être en retard ». Enfin, oui, il y a, oui, toutes ces injonctions autour qui empêchent aussi peut-être de sentir bien.
Mm. Bien. Se connaître permet d'envisager les relations avec les autres et avec notre environnement de manière plus saine et calme. Ce n'est pas une démarche égoïste, hein, comme beaucoup le pensent, c'est tout simplement un rendez-vous avec soi. Merci Juliette Leclerc, coach thérapeute, pour nous avoir aidé à retrouver notre intérieur. Parlons équilibre touche à sa fin. À très bientôt sur Radio Calade 100.9.
Calade.
Parlons équilibre.